Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 25 janvier 2022. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Burkina Faso, manifestation de soutien aujourd'hui au putschiste Ouagadougou. La CEDEAO condamne fermement ce coup de force. L'ONU demande la libération immédiate de Rochmar Christian Kabore. La junte burkinabé a décidé de rouvrir les frontières aériennes fermées depuis hier lors du coup d'État. En Ouganda, l'écrivain Kakwenza Rukira Bacheja, toujours détenu malgré un ordre de libération sous caution. Les Occidentaux font front commun contre la Russie dans la crise ukrainienne. Ils menacent Moscou de sanctions sans précédent. CAN 2021 au Cameroun, Emmanuel Jelentap nous rejoint dans un instant. En ouverture dans le journal des sports. Football CAN 2021 au Cameroun, les deux avant-derniers matchs des huitièmes de finale se disputent aujourd'hui. La Coupe d'Afrique des Nations est déjà entachée par les incidents mortels d'hier à Yaoundé. Une bousculade s'est produite à l'une des entrées du stade Olembé et a fait 8 morts selon le bilan officiel. Le président de la CAF a décidé de délocaliser le prochain match à Yaoundé pour le journal de la CAN, Emmanuel Jelentap.
Bonsoir. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi à Yaoundé que Patrice Motsepe, le président de la CAF, a fait l'annonce des mesures transitoires prises à l'encontre du stade d'Olembé après la bousculade mortelle d'hier. Nous écoutons le président de la CAF.
I spoke to the senior person in government to indicate that there must be an immediate...
J'ai dit au haut responsable gouvernemental qu'une commission doit être mise sur pied pour immédiatement enquêter sur ce qui est arrivé et, dans ce contexte, déterminer qui devait faire quoi et qui ne s'est pas acquitté de ses responsabilités. Nous voulons, d'ici vendredi, un rapport nous assurant que cela ne se répétera plus jamais, absolument plus jamais. La commission de discipline se réunira pour examiner le rapport de la commission de match et de tout le monde parce qu'elle doit recevoir ce rapport. Mais, ainsi que je l'ai dit, entre-temps, les matchs devant s'y jouer ne le seront pas jusqu'à ce qu'il y ait un rapport exhaustif sur les circonstances dans lesquelles les gens ont perdu la vie et une garantie absolue que des mesures correctives seront prises et mises en œuvre pour assurer que les matchs restants se déroule dans un environnement donnant la priorité à la sécurité et la santé et que nous n'ayons plus jamais, alors que cette compétition se déroule, des situations où les gens seraient blessés.
Le communiqué du gouvernement rendu public hier indique que les bousculades se sont produites à l'entrée sud du stade d'Olembé. La CAF regrette la fermeture inappropriée d'un point d'accès à cette partie du stade et demande les comptes. Patrice Motsepe, le président de la CAF.
Je me suis rendu à l'endroit où les gens ont perdu la vie. J'y suis allé ce matin. Et vous voyez, c'est une grille qui devait être ouverte. Car si elle avait été ouverte, les gens l'auraient franchie. Et elle était fermée pour d'inexplicables raisons. Elle était fermée. Si cette grille était ouverte comme elle devait l'être, nous n'aurions pas le problème actuel, ces pertes de vie. Et donc, bien sûr, cela fait partie de ce que nous voulons savoir. Qui a fermé cette grille? Qui en était responsable?
Who closed that gate? Who's responsible for that gate?
Les journalistes ont également interpellé la CAF sur la controverse née autour des tests COVID. Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosongo Omba, explique.
Vous vous rappelez, lors du Tchan, il y a eu des contestations sur des contrôles COVID par rapport au test qui a été effectué par le laboratoire domicilié ici au Cameroun. C'est aussi pour éviter ce problème de laboratoires locaux, nous avons décidé de contracter un laboratoire indépendant, fiable, dont l'expérience n'est plus à démontrer, parce qu'une lab, il a eu la responsabilité de conduire des tests lors de l'Euro, et puis lors de la FIFA à Arab Cup. Donc c'est ce laboratoire-là qui est venu ici avec ses propres matériels, qui conduit des tests pour les équipes, les joueurs et les officiels de la délégation. La commission médicale a décidé de réajuster le règle. Une de ces règles qu'il a réajustée, c'est après avoir été testé positif, après 5 jours, on fait des tests cardiovasculaires. Donc, après 5 jours, de confinement, si vous êtes négatif, on fait des tests cardiovasculaires pour pouvoir vous permettre de jouer. C'est ça juste l'ajustement qu'ils ont fait. Mais ce qui était plus important, c'est faire ces tests cardiovasculaires parce que après Covid, on ne peut pas laisser les joueurs aller sur le terrain comme ça et puis il y a des problèmes cardiaques.
Sur le terrain, la compétition se poursuit ce soir avec 2 matchs de 8e de finale à Bafoussam et à Yaoundé. Les dernières rencontres sont programmées mercredi. À l'affiche, le très attendu Côte d'Ivoire-Égypte au stade de Japoma à Douala et Mali-Guinée équatoriale à Limbé. Hier, la Gambie et le Cameroun se sont qualifiés pour les quarts de finale. Les deux pays s'affrontent d'ailleurs samedi prochain à cette phase du tournoi. Le Cameroun a battu les îles Comores 2-1. La sélection comorienne a pourtant disputé une bonne partie du match à 10 contre 11, en plus d'avoir comme gardien de but un joueur de champ. Le coach des Lions indomptables, Antonio Conceição, n'a pas été satisfait de la prestation de ses poulains.
Il y a eu des bons moments et des moments difficiles. Il y a eu des risques, n'est-ce pas, pour que l'adversaire puisse même marquer le but vers la dernière minute. Donc nous ne sommes pas satisfaits et je crois que de ce jeu-là. J'ai déjà eu à parler, n'est-ce pas, avec des joueurs de cette rencontre.
Rappelons que l'autre quart de finale connu mettra aux prises, toujours samedi prochain, le Burkina Faso à la Tunisie. Voilà, c'est tout pour le journal de la CAN. Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
À présent, la suite du journal. Au Burkina Faso, des centaines de manifestants sont descendus aujourd'hui dans les rues de Ouagadougou pour afficher leur soutien aux putschistes au lendemain du coup d'État qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabore. Le point avec Rosine Monizero.
Nous avions demandé à plusieurs occasions le départ du président Kabore qui n'a pas entendu cet appel. L'armée nous a entendus et compris, se réjouit Lassane Ouédraogo, un manifestant et militant de la société civile. Pour nous, ce n'est pas un coup d'État. C'est une libération de notre pays qui était dirigé par des incompétents, renchérit Julien Traoré, une enseignante. Certains manifestants brandissaient des drapeaux maliens et russes, appelant à une coopération avec Moscou. Ni l'ex-parti au pouvoir, ni l'opposition n'ont réagi depuis la prise de pouvoir par des militaires. La vie semble avoir repris son cours normal à Ouagadougou. Le grand marché, les commerces ou les services stations sont restés ouverts, sans présence militaire notable. Les frontières aériennes, fermées depuis lundi par une junte militaire, vont rouvrir à compter de ce mardi, selon un communiqué des militaires lu à la télévision nationale.
Merci Rosine. Les frontières terrestres rouvrent uniquement pour les véhicules humanitaires, ceux transportant des denrées de première nécessité, ainsi que les équipements destinés aux forces de défense et de sécurité. Après le coup d'État, la France déplore profondément la prise de pouvoir par les militaires burkinabés. L'ONU demande la libération immédiate du chef de l'État, Roch Marc Christian Kabore. La CEDEAO condamne fermement ce coup de force. Les précisions de Dany Talani.
Dans un communiqué, l'organisation précise que la situation au Burkina est caractérisée par un coup d'État militaire commis lundi suite à la démission de M. Kabore, obtenue sous la menace, l'intimidation et la pression des militaires. Après 2 jours de mutinerie, indique un communiqué de la CEDEAO qui annonce la tenue prochaine d'un sommet extraordinaire. Le président français Emmanuel Macron déplore un putsch qui, selon lui, s'inscrit dans une succession de plusieurs coups d'État militaires qui sont extrêmement préoccupants dans un moment où la région du Sahel doit avoir une priorité qui est la lutte contre le terrorisme islamiste. Il n'y a rien qui conduit aujourd'hui à penser qu'il y ait des troubles supplémentaires ni des menaces pour nos ressortissants, d'après M. Macron. Pour sa part, l'ONU réclame la libération immédiate du président Roch Marc Christian Kabore et d'autres hauts responsables arrêtés et appelle à un retour rapide à l'ordre constitutionnel.
Toujours à propos du Burkina Faso, le secrétaire général de l'ONU a encore insisté ce mardi que les coups d'État militaires sont inacceptables en réclamant aux militaires en Afrique de l'Ouest de défendre leur pays, pas d'attaquer leur gouvernement. Antonio Guterres s'est exprimé avant une réunion du Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés. La France a engagé une concertation approfondie avec ses partenaires européens participant au groupement de forces spéciales Takuba au Mali, alors que la junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations, a déclaré mardi Florence Parly, la ministre française des armées. Elle en a profité pour affirmer sa solidarité avec, je cite, « nos partenaires danois dont le déploiement se fait sur une base juridique légale ». Contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui la junte malienne. Bamako a demandé lundi au Danemark de retirer immédiatement la centaine de soldats arrivés récemment dans le pays pour participer à la Task Force Takuba initiée par la France. Au Soudan, 9 membres de l'ONG Médecins sans frontières arrêtés en marge des défilés anti-push lundi à Khartoum ont été relâchés. Les membres du personnel de MSF ont été arrêtés et détenus par les autorités lundi soir après que des milliers de Soudanais ont de nouveau conspué dans la rue le pouvoir militaire de Khartoum. En Ouganda, l'écrivain Kakwenza Rukira Bacheja, accusé d'avoir insulté la famille du président Museveni, a été emmené ce mardi par des hommes en civil qui le détiennent illégalement, bien qu'un tribunal a ordonné sa libération sous caution, selon son avocat. Les détails avec Mohamedou Mfa.
Un tribunal de la capitale Kampala avait ordonné mardi matin la libération contre une caution de 500 000 shillings ougandais, environ 125 euros, de l'écrivain de 33 ans, arrêté le 28 décembre. Mais au lieu d'être relâché, il a été enlevé de sa prison située à une cinquantaine de kilomètres de Kampala par des hommes en civil, selon son avocat, Maître Aaron Kiza. Environ 4 heures après l'audience, des hommes armés en civil sont venus à la prison et ont emmené Kakwenza, nous pensons au quartier général des forces spéciales ougandaises à Entebbe, a-t-il déclaré. Kakwenza Rukira Bacheja, qui selon ses avocats a été torturé en détention, semblait fragile lorsqu'il a comparu par vidéoconférence à l'audience de mardi matin. Un gardien de prison a déclaré au juge que l'écrivain se plaignait de douleur et demandait à rester assis. Il a été inculpé le 11 janvier de communication offensante envers le président Yoweri Museveni et son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, dans une série de publications sur Twitter. Il y qualifiait ce général d'obèse et de rouspéteur. Les États-Unis, l'Union européenne et les organisations de la société civile ont appelé à sa libération.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants occidentaux ont convenu de répondre d'une seule voix à une éventuelle attaque de l'Ukraine par la Russie en imposant à Moscou des sanctions d'une sévérité sans précédent, selon Londres. Le point avec Jacques Aristide.
Il s'agit de mesures économiques jamais décidées auparavant contre la Russie, d'après Boris Johnson, le chef du gouvernement britannique. Sa déclaration intervient après la visioconférence d'hier soir entre les États-Unis et leurs alliés européens. Moscou a donné le coup d'envoi aujourd'hui à de nouvelles manœuvres militaires non loin de l'Ukraine et en Crimée annexée, après avoir accusé les États-Unis d'exacerber les tensions en mettant en alerte des milliers de soldats américains. Russes et occidentaux n'ont cessé ces dernières semaines de s'accuser de nourrir la crise au risque de provoquer un conflit d'ampleur. Les efforts diplomatiques se poursuivent cependant, même si les résultats manquent. Si Moscou nie tout projet d'invasion de l'Ukraine, le Kremlin insiste sur des garanties écrites pour sa sécurité, y compris sur la promesse que Kiev ne va pas intégrer l'OTAN. Les États-Unis et les Européens sont prêts à protéger les approvisionnements gaz naturel de l'Europe si jamais la Russie décidait, en cas de conflit ouvert, de couper le robinet, indique un haut responsable de la Maison-Blanche qui met en garde à Moscou contre toute instrumentalisation de ses ventes d'hydrocarbures.
Le Kremlin a ajouté aujourd'hui l'opposant russe Alexei Navalny, emprisonné depuis plus d'un an, ainsi que certains de ses alliés à sa liste de terroristes et extrémistes, dernière mesure d'une longue série visant à museler l'opposition. Les agences de presse russes rapportent par ailleurs que l'administration pénitentiaire russe a demandé que la peine d'un an de prison avec sursis, prononcée en août 2021 contre le frère de Navalny Oleg pour des appels à manifester en violation des restrictions sanitaires, soit commuée en peine de prison ferme. Les frappes aériennes menées la semaine dernière contre une prison au Yémen ont fait quelques 90 morts et plus de 200 blessés, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Santé des rebelles houthis. Au terme des opérations de secours, les Nations Unies avaient déclaré samedi qu'au moins 60 personnes avaient perdu la vie dans ces attaques. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, au lendemain de la prise du pouvoir par un groupe de militaires regroupés au sein du MPSR, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, plusieurs centaines de jeunes sont descendus ce mardi dans les rues de la capitale burkinabé pour soutenir la junte, beaucoup espérant que les militaires vont arriver à bout de l'insécurité qui mine ce pays depuis 7 ans. Le compte rendu de Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Sur la place de la Nation à Ouagadougou, réunis en petits groupes, des centaines de manifestants sont venus pour soutenir la junte qui a pris le pouvoir.
Voilà, on est très contents. Maintenant, là, les armées burkinabè ont pris le pouvoir, ça nous plaît beaucoup. Inch'Allah, le pays va être en paix maintenant, ça, on est sûr de certains. Il n'y aura pas de problème comme ce qui a passé. Voilà, c'est ce qu'on a prié, bon Dieu, depuis fort longtemps. Voilà ce que les résidents s'étaient fait hier. Nous tous, les burkinabè sont très contents pour le coup d'État.
Aujourd'hui, nous avons décidé de sortir sur ce terrain. Parce que nous savons que l'avenir de ce pays appartient surtout à la jeunesse. Et aujourd'hui, cette jeunesse n'a plus d'avenir. À cause des multiples injustices, l'injustice appliquée à la jeunesse par une partie des dirigeants de ce pays a poussé ces jeunes à sortir d'ici.
Je suis décidé de sortir pour soutenir les militaires. Parce qu'ils ont fait un bon boulot. Depuis 6 ans, ils sont en train de souffrir. Nos mamans, mais nos femmes aussi, il y a trop de souffrance dans le pays.
Depuis 2015, le pays vit une situation sécuritaire précaire. Les revendications des populations restent nombreuses. Et le public attend beaucoup de la junte au pouvoir.
L'armée n'a qu'à prendre le saut dans le sérieux.
Ah ouais.
Voilà, l'armée, tout le peuple sont derrière l'armée. Donc il n'y a pas erreur. Maintenant, il n'y a pas erreur. Il n'a qu'à prendre le saut en sérieux. Maintenant, on n'en veut plus ce qui a passé.
Nous demandons aux nouvelles autorités d'appliquer rien que la justice. La justice est rien que la justice que nous voulons. Ceux-là qui ont tué ce pays, ces fonctionnaires qui ont écrit des textes pour tuer ce pays, on n'a qu'à les écarter et mettre de nouvelles têtes de la jeunesse étudiantine actuellement en place pour un nouveau départ de ce pays.
Et voici l'avis de Arnaud Francis Kinané, un militaire a dit en 2011.
C'est des jeunes officiers que nous connaissons très bien, parce que nous sommes des militaires. Donc nous avons foi en eux que le Burkina va avoir en tout cas et une bonne gouvernance. Voilà, donc ce que nous avons à leur dire seulement, c'est de débuter avec une réconciliation urgente, une réconciliation générale de toute la nation. Faire revenir les exilés afin que nous parlons le même langage.
Dans une lettre manuscrite publiée lundi nuit par la télévision nationale, le président Kabore a indiqué déposer sa démission dans l'intérêt supérieur de la nation suite aux événements qui s'y déroulent depuis dimanche. La lettre est signée de la main de Roch Kabore, le désormais ancien président du Faso. Le MPSR, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, a annoncé la réouverture des frontières aériennes. À compter de ce mardi, les frontières terrestres restent elles toujours fermées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Tia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, bruit de bottes à Ouagadougou. Des soldats se sont mutinés au cours du week-end, demandant le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre les djihadistes. Une nouvelle incursion des militaires dans le champ politique sous-régional qui inquiète la communauté internationale. Qu'est-ce qui explique ce nouveau coup de colère des militaires au Burkina Faso ? Doit-on s'attendre à une plus grande présence des militaires dans le champ politique régional ? La persistance des attaques djihadistes risque-t-elle de fragiliser davantage le système politique dans le Sahel ? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Sénégal, les premiers résultats des élections territoriales dans les principales villes du pays sont largement en faveur de l'opposition. La coalition Yehoui-Askan a notamment raflé la capitale Dakar qui reste dans l'escarcelle de Khalifa Sall à travers son fidèle lieutenant Barthélemy Diaz. Ziguinchor, la grande ville du sud, a basculé en faveur de l'opposant Ousmane Sonko. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Guédiouaï et donc Dakar sont désormais aux mains de la coalition d'opposition Yewi Askanbi. Pour les Sénégalais, ce revers de la coalition présidentielle dans les grandes villes montre l'exaspération de la population, comme l'explique le juriste Bambangom.
Le peuple sénégalais en a marre tout simplement du parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, ressemble plus à vos sanctions. Le peuple sénégalais aussi voulait lancer un message, un signal fort au président de la République qui a tous ces candidats malheureux de ces élections-là, lancer un signal fort au président de lui dire que vous n'avez pas cette légitimité-là, donc non au troisième mandat, vous ne pouvez pas briguer un troisième mandat. Il faut ajouter donc l'engouement de ces jeunes-là, la prise de conscience de certaines jeunes, donc qui ont pu tout simplement montrer leur détermination, leur engagement par rapport à notre très chère nation.
Certains électeurs comme Aoussar pense que les résultats de ces élections locales traduisent les inquiétudes des Sénégalais.
Bon, je pense que les résultats d'hier ont montré carrément le désarroi des Sénégalais, ainsi que leur mécontentement. Vous voyez, dans la plupart des communes, la coalition Yewi a remporté les élections de loin sans hésitation. Et je dirais également que c'est un vote sans chance, surtout pour la commune de Guédiouaï avec Ahmed Haïdara, pour la ville de Dakar avec Barthélemy Diaz. Ils ont choisi les jeunes, les Sénégalais ont choisi les jeunes. Ils fondent leurs espoirs sur les jeunes. Ils font également leurs espoirs sur la coalition Yewi Askanbi, comme son nom l'indique. Les Sénégalais se sentent enchaînés par ces régimes. Ils ont carrément montré qu'ils voulaient le changement, qu'ils voulaient la liberté. Ils l'ont montré hier.
Du côté des responsables électoraux, on note une satisfaction par rapport au bon déroulement du vote. Ibrahim Diop, superviseur à la Commission électorale nationale autonome, Sénat.
Mais je peux vous assurer que si toutefois des couacs ont été notés, ça a été réparé le plus rapidement possible parce que les responsables sont aux aguets et véritablement nous sommes à la rescousse de tout ce qui est anomalie qui peut empêcher véritablement le bon déroulement du vote. Même le scrutin avait débuté normalement à l'heure indiquée. Je pense que des dérogations ont été déjà mentionnées si toutefois les électeurs sont toujours sur place. Et puis certes on a noté un léger décalage par rapport à l'heure de démarrage. Mais si toutefois les électeurs sont toujours à 18h, l'heure de fermeture, on peut véritablement apporter une dérogation par rapport à l'heure, un décalement de quelques minutes, voire même une heure, pour un peu permettre aux gens d'accomplir leurs devoirs citoyens.
Au-delà de la perte de la majorité des grandes circonscriptions électorales, la coalition au pouvoir a vu de grandes figures de son attelage perdre de leur aura. C'est le cas notamment du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a perdu la bataille de Dakar et son fauteuil de maire de la commune d'Oyof. Seydina Abba Gueye à Dakar pour VOA Afrique.
Lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, la phase de répression est entrée dans sa phase active. Dans le secteur de la santé, une dizaine d'agents ont été relevés de leurs fonctions, les uns pour malversation et fraude, d'autres pour non-application des mesures sanitaires. Ces sanctions disciplinaires ont été annoncées par le ministère de la promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Delphine Boise.
De simples avertissements à la révocation d'une dizaine d'agents de santé. Et ce sont là les premières mesures disciplinaires issues des conclusions de l'enquête diligentée au cours de la période d'octobre à novembre 2021 dans 7 établissements sanitaires d'Abidjan par les vérificateurs du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Mathurin Goulibi-Irlié, l'inspecteur général du VIM.
Il s'agit des agents de la santé qui n'ont pas appliqué les mesures sanitaires telles que exigées et que nos vérificateurs sont allés sur le terrain et ils ont constaté des cas de fraude.
Des sanctions ont été prises à l'encontre de ces agents, mais quels sont les faits de corruption dont ils sont coupables? Éléments de réponse avec l'inspecteur général du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Il y a certains qui sont relevés de leurs fonctions. Un directeur, par exemple, d'Abobo, a été été relevé de ses fonctions. Parce que sous sa responsabilité, il y a eu des défaillances. Donc nous l'avons accusé directement. Et dans certains services, lorsqu'il y a eu des malversations, des fraudes, nous avons relevé ces directeurs-là de service de leurs fonctions. Nous avons aussi fait des suspensions. Il y a certains docteurs, quand les malades vont dans les hôpitaux où il y a tous les services, qui ont détourné des patients vers des cliniques privées, là où ils perçoivent encore des perdièmes.
Le ministère ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, indique l'inspecteur général Mathurin Golibi-Iri.
Il y a une dizaine de personnes pour l'instant qui sont condamnées, d'autres sont en cours, nous sommes en train de faire des vérifications.
Et que pensent les Ivoiriens de ces mesures disciplinaires?
Vraiment, l'État peut vraiment s'occuper de ça, vraiment, ça nous fera plaisir. Est-ce que ça peut continuer aussi? En tout cas, moi aussi, j'ai appris ça. Après, c'est très bon. Parce que souvent, l'État parle de ça et puis après, bon, il est... En haut, est corrompu.
Au dire de l'inspecteur général du ministère, l'opération de vérification d'allégations se poursuivra dans les secteurs publics et un calendrier annuel a déjà été établi dans ce sens. Pour rappel, la lutte contre la corruption a été déclarée priorité nationale pour cette année 2022 par le président ivoirien Alassane Ouattara lors de son message de fin d'année à la nation. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Les tensions continuent de croître entre les pays de l'OTAN et la Russie, accusés de masser des troupes à la frontière ukrainienne en vue d'une éventuelle invasion. Les États-Unis ont placé jusqu'à 8500 soldats en état d'alerte pour un possible déploiement en Europe. Washington va aussi évacuer certains employés de son ambassade en Ukraine. Le point avec Anita Powell, la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est de Jacques Aristide.
Ce mardi, la Russie a entamé de nouvelles manœuvres militaires non loin de l'Ukraine et en Crimée annexée quelques heures après avoir accusé les États-Unis d'exacerber les tensions. L'administration du président Joe Biden est prête à intervenir aux côtés de ses partenaires de l'OTAN, d'après Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche.
Bien que nous ne puissions pas nous mettre dans la tête du président Poutine, nous voyons les préparatifs en cours à la frontière. Nous avons été très clairs et le président Biden a été direct au sujet d'une action militaire de la Russie qui pourrait intervenir à tout moment.
Washington a réagi notamment en mettant en alerte 8500 militaires et en envisageant l'évacuation de certains membres du personnel de l'ambassade des États-Unis à Kiev. Lundi, le président Joe Biden a eu un entretien téléphonique avec des dirigeants européens et de l'OTAN. Il a été question d'une résolution diplomatique, mais aussi d'éventuelles lourdes sanctions, y compris économiques, à infliger à la Russie. Les troupes ukrainiennes, quant à elles, se préparent à une invasion. Kiev s'interroge sur les pourparlers entre Washington et Moscou. Volodymyr, un soldat ukrainien.
C'est mauvais quand deux pays, la Russie et les États-Unis, discutent de l'avenir d'un autre pays. Nous devons aussi participer à ces discussions.
Des efforts diplomatiques sont menés par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Andrew Lawson, du Centre d'études stratégiques et internationales, est interrogé via Zoom.
Vous savez, c'est encore une confrontation qui n'a pas encore dégénéré en conflit ouvert. Je pense qu'il y a toujours la possibilité de trouver une voie de sortie, aussi lointaine que cette possibilité puisse parfois sembler. Le fait est que nous continuons à parler.
Lors des entrevues de la semaine dernière, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a dit ne pas s'attendre à une percée. Il a réclamé une réponse écrite aux exigences de Moscou, dont la réduction d'une partie des troupes de l'OTAN en Europe de l'Est et l'interdiction à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Léon Aron, chercheur principal à l'American Enterprise Institute, est interviewé via Zoom.
Putin is the judo enthusiast. And in judo, you very rarely...
Poutine est un passionné de judo. Et au judo, on gagne très rarement d'un coup, contrairement aux stéréotypes. On gagne par l'accumulation de points. Il n'y a pas de coup de grâce s'il n'a pas gagné. Mais écoutez, il a testé l'OTAN. Et l'OTAN a beaucoup tâtonné et montré les signes de division. Chaque fois que Poutine fait quelque chose ou dit quelque chose, le président américain se précipite pour répondre, convoquer ou programmer un sommet. Et il y a tellement d'autres points qui se sont accumulés de cette façon. Et il ne fait aucun doute qu'il est en train de gagner.
Pendant ce temps, à la frontière russo-ukrainienne, la situation s'envenime.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.